Bonsoir, Monsieur Truchon.
Bonsoir.
Donc, nos auditeurs se rappelleront que la semaine dernière, nous avons poursuivi l'explication des termes de la cinquième béatitude, c'est-à-dire la miséricorde et les miséricordieux. Et voilà que nous sommes prêts, je pense, à aborder le fonctionnement de la béatitude, comme vous l'appelez, son modus operandi en quelque sorte.
Oui, exactement. Aujourd'hui, nous abordons ce qui est de plus profond et ce qui est de plus important dans la vie du chrétien. Alors, en effet, nous avons vu les termes eux-mêmes qui expliquaient la béatitude, c'est-à-dire les mots, et qui étaient la tendresse, l'empathie, la capacité de Dieu de vivre à l'infini toute notre vie personnelle et collective, et ce qu'il a fait en Jésus-Christ, et la nature de la béatitude qui, au fond, la miséricorde, c'est le Christ lui-même en personne. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher ou nous approcher de ce qui est le fonctionnement le plus profond de cette révélation et de notre vie finalement. Alors c'est le Christ crucifié qui est en croix, qui a toute la puissance de nous guérir et de nous diviniser à partir de ses blessures en lui demandant l'Esprit Saint, c'est-à-dire la puissance même de sa vie, pour nous faire vivre de sa vie et de son amour. Et on pourrait structurer un peu cette entrevue ou cette émission en parlant de la prière, de la méditation, du jeûne et de l'aumône, qui sont au fond les pratiques les plus traditionnelles des grandes religions, mais aussi ce qui a été assez important dans la vie de Jésus, et il nous le rappelle assez. Alors, d'abord la prière, c'est-à-dire que la prière, comme tout le monde le sait un peu, c'est de s'élever l'esprit vers Dieu, bon, OK. Mais la prière, c'est d'arriver non seulement à parler à Dieu, à écouter Dieu, mais à sentir même les sentiments que ses gestes, ses actes et ses paroles veulent dire. Alors, cette méditation, c'est-à-dire cette façon d'être devant le Christ, par ses paroles, ses écrits, à l'Eucharistie, lors de la célébration des paroles, lors de nos communions, d'arriver à vraiment voir que le Christ, même s'il est invisible, il est réellement là pour nous, dans son histoire personnelle et mondiale, et reprenant en lui-même la nôtre. Alors, mais en fait, rendu à la maison, il faut arriver à visualiser ça aussi. On ne peut pas être toujours à l'église non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut prendre un objet, un crucifix, par exemple, entre autres, et régulièrement se mettre devant le crucifix et méditer, c'est-à-dire lire des textes d'Écriture sainte, lire des livres de théologie, mais toujours en relation avec le Christ lui-même, comme début, sommet et fonctionnement de toute cette histoire. Tout à l'heure, je parlerai peut-être d'une technique de méditation que j'ai adaptée en théologie, mais qui en fait venait d'un psychiatre. Mais en fait, ça fait comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, la prière qui nous permet de fonctionner au-delà de nos limites, c'est-à-dire de prendre une distance face à ce qu'on vit, d'arriver à sentir ce qu'on vit, mais d'arriver aussi à prendre une distance. Alors, le Christ est le lieu privilégié pour faire cet exercice. Et évidemment, on sait que tous les saints ont fait ces exercices de prière.
Alors,
où on est plusieurs, on est plus fort. Hein?
Oui? Vous parlez de la prière oui. ici comme de la prière systématique, celle oui. qui est plus conventionnelle, mais vous avez fait allusion déjà à des actes quotidiens très simples qui sont aussi une prière.
Oui, d'ailleurs, c'est la prière, peut-être qu'à un moment donné, on en parlera d'une façon un peu plus complète. Là, ici, on ne peut pas tout faire. Il y a des prières qui sont officielles, les prières, le bréviaire, les psaumes, les textes liturgiques. Il y a des prières qui sont personnelles, qu'on invente avec nos propres mots. Il y a aussi des pratiques de prière. Et finalement, la prière, ça devient finalement une manière de vivre. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « prier toujours », ça veut dire d'une manière d'être face à lui, comme le verbe hébreu, comme le radical hébreu Cohen disait « se tenir devant Dieu », ce qui était la fonction principale du prêtre, « se tenir devant Dieu et s'offrir à lui dans l'amour », mais à condition d'être atteint personnellement et d'avoir aussi des guérisons pour le faire, c'est-à-dire des puissances libérées pour pouvoir faire ça. Et le faire avec profit, évidemment, là, parce qu'il s'agit de recevoir du Christ sa sainteté, sa force, et tout ça à partir de ces blessures qui, au fond, sont les nôtres. Alors, ce qu'il faut arriver, c'est à saisir que ce qu'on vit, le Christ l'a vécu, et il vit encore, il le vit encore en nous. Alors, quand on arrive à prier avec un sentiment d'amour que les textes suggèrent ou que les saints évangéliques suggèrent, c'est-à-dire les mystères du Christ, si nous arrivons à sentir ces mystères tout en les méditant et en les étudiant, À ce moment-là, nous sommes atteints. Mais ça ne suffira pas la prière. Il va falloir la méditation, il va falloir le jeûne, il va falloir l'aumône. Alors, il va falloir en reparler de ça. Alors, la méditation, ça consiste à se tenir ouvert devant Dieu. La prière, ça consiste à écouter sa parole, à la méditer, à la relire, à l'étudier.
Alors, avec quelle est la différence, au fond, entre la prière et la méditation?
Ben, justement, la prière, c'est, au fond, recevoir le dialogue de Dieu et peut-être lui échanger aussi en retour nos sentiments, nos mots. Tandis que la méditation, c'est plutôt se préparer à se tenir ouvert devant Dieu et je dirais quasiment à sentir le vide que nous sommes sans Dieu. Alors, on passe de la prière à la méditation, puis aussi on arrive à l'oraison, qui, elle, l'oraison, c'est se tenir devant Dieu pour nous laisser faire complètement par lui. Alors, en fait, finalement, c'est l'Esprit-Saint qui nous fait passer de la prière à la méditation, de la méditation à l'oraison. Et le but de tout ça, c'est d'arriver à sentir la présence de Dieu en toutes choses, la sentir dans notre conscience. Et à ce moment-là, ben, on est millionnaire parce qu'on n'est jamais seul et on peut pratiquer avec profit là, Matthieu 6:6, c'est-à-dire se construire une cellule intérieure où on est toujours avec Dieu.
Mais la méditation, elle, au contraire de la prière, on doit la faire, on doit absolument la faire seule. Ce n'est pas comme la prière qui s'actualise dans le quotidien.
Ouais, la prière aussi, parce que n'oublions pas que Jésus dit « Va-t'en dans ta chambre, ferme la porte et prie le Père ».
Oui, mais il y a différents modes de prière.
Il y a différents modes de prière.
Tandis que la méditation, elle doit se faire absolument seule.
Bien, ça dépend si dans la méditation, il y a des étapes, par exemple l'étude, on pourrait la faire en groupe, mais à un moment donné, on est seul, oui, finalement.
D'accord.
Finalement, on est seul tout le temps parce qu'à la base de la vie de foi, il y a une histoire qu'on vit avec Dieu qui est complètement personnelle.
D'accord. Est-ce que ça y est pour la méditation? Est-ce qu'on passe maintenant au jeûne?
Bon, le jeûne, bon, pour faire comprendre le profit du jeûne, peut-être plus dans notre culture occidentale qui est moins connue, là, cet acte-là du jeûne, d'abord, en pratique, c'est de sauter un repas par semaine. Mais essayer de le faire toujours le même jour et essayer de le faire pour des motifs religieux, en particulier la communion avec le Christ, pour ça que le vendredi est peut-être une journée.
D'où est-ce que ça nous vient, ça, l'idée de passer un repas par semaine? Est-ce que c'est écrit quelque part?
C'est pas écrit quelque part. C'est dans des pratiques monastiques et c'est dans des textes de maîtres là, qu'on apprend. Et il faut faire ça avec une grande sagesse. Parce que des fois, quand on est plus jeune un peu, on est un peu fourraide, on fait ça d'un coup sec.
C'est un mode établi par certaines traditions, autrement
dit.
Oui,
des traditions de sagesse, parce que quand on est jeune, hein, on veut que ça arrive tout dans la fin de semaine. Là. Ça fait que là, ça n'a plus de bon sens. Alors, le jeûne, il faut que ça soit fait avec une grande sagesse, parce que c'est un acte, au fond, qui est basé sur une expérience qui a des fondements scientifiques. Un jour, une diététicienne disait « On peut être sans danger, 3 jours sans manger », mais l'idéal, c'est pas de faire ça d'un coup sec comme ça, à cause de la semaine sainte, là. Alors, on commence tranquillement. Autrement dit, il faut qu'il y ait un ajustement des glandes, tout ça. Bon, ça, c'est la physiologie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme spiritualité là-dedans? D'abord, c'est basé sur un principe que j'illustrerai de la façon suivante. C'est que les scientifiques, quand ils veulent trouver la cause d'une chose, c'est qu'ils font. Ils enlèvent la chose. Si la chose enlevée, le fait continue à apparaître, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. S'il y a un lien direct, quand ils enlèvent une chose, le fait disparaît, bon, ben là, on dit, ça y est, il y a une cause. Par exemple, prenez un enfant, il y a deux principes d'apprendre, l'association puis la causalité. Prenez un enfant, par exemple, qui échappe une fourchette par terre, puis la porte rouvre, puis c'est sa tante qui rentre. Bien, il va encore échapper à la fourchette pour voir si sa tante va rentrer encore. Mais ça, c'était de l'association. À un moment donné, il voit qu'elle ne rentre pas. Donc, il n'y avait pas un principe de causalité. Le jeu nous fait découvrir ce qui nous meut. Thank you.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée, l'émission en cours, le déroulement du livre. Nous étudions ce soir la cinquième béatitude, la béatitude de la miséricorde et son fonctionnement. Monsieur Truchon, vous venez d'affirmer que le jeûne nous permet de découvrir ce qui nous meut.
Oui.
Expliquez-nous ça un petit peu.
Oui, c'est que le jeûne, ça a beaucoup de valeur, le jeûne. Il ne faut pas la majorer non plus, cette valeur-là, parce que le plus important, comme dit le Christ, c'est pas le jeûne, c'est la miséricorde. Mais il reste que le jeûne, c'est un instrument de connaissance de soi. C'est qu'on sait, par exemple, que la privation de quelqu'un qu'on aime nous fait apprécier sa présence ou ça nous fait creuser l'importance de cette relation-là quand elle est absente. Mais à force d'être présente, à un moment donné, on ne sait plus très bien l'importance de la personne. Et des fois, il faut attendre quasiment que la personne soit morte pour lui dire qu'on l'aime. Il est un peu tard.
C'est vrai.
Alors, le jeûne nous permet d'abord, c'est un instrument de connaissance. C'est qu'enlevant la cause de certaines choses, ça nous fait creuser la place que cette chose prenait, son importance. Ensuite, il y a un jeu chimique là-dedans. C'est que ça réveille la mémoire de toutes sortes de circonstances et d'événements. Ça devient à un moment donné un instrument thérapeutique. Mais à condition encore que ça soit bien fait, il faut le faire toujours avec joie.
Quand vous dites ça réveille la mémoire, oui. Là, c'est vous parler d'un processus physiologique.
D'abord, mais ensuite psychologique, parce que tout est associé à la nourriture d'une certaine manière. La nourriture, c'est le lieu important d'une communion, d'un échange, d'une fête, d'une peine. Tellement que des fois, il y en a qui remplacent l'ennui par la nourriture, ils montent à 300 livres. Là, je ne parle pas des physiologies là, dans un processus de croissance ou encore d'une hérédité. Je parle des choses qu'on peut maîtriser et qu'à un moment donné, on prend des déviations. Parce que le fait d'être petit ou gros, ce n'est pas ça qui est la sainteté. Il faut bien comprendre que Jean 23 était assez gros, merci. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a dit « arrêtez de me transporter, je suis trop pesant ». Ça fait que là, il était capable de marcher. Alors, autrement dit, c'est pas une question de bedaine, la sainteté, là. Mais c'est une question, dans la sainteté, il y a une maîtrise de soi, parce qu'il faut apprendre à aimer l'autre vraiment, et non pas simplement dans des projections glandulaires, un peu comme font les animaux, qui sont très bien d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faut passer, nous autres, à un état oblatif, c'est-à-dire d'être centré sur l'autre, et sans être détriment de soi-même. Alors, le jeûne, donc, en fait, facilite l'amour du prochain et de soi-même, s'il est bien fait. Et là, j'aimerais citer une prière d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Del Vasto, qui est la suivante. « Seigneur, sois mon pain aujourd'hui, ma faim, ma soif, mon désir et ma joie. Garde-moi des amours qui ne sont pas l'amour de toi. Délivre-moi de mes perversions, mais prends place en moi, Seigneur. Amen. » Alors, cette prière nous fait revaloriser les choses en les mettant à leur place. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? C'est la présence de l'amoureux. Alors, moi, depuis 6 ans, j'ai particulièrement peut-être découvert l'eau chaude, là. C'est pas brillant, là, mais c'est dans la vie de foi, ça peut être imbrillant, ce que j'ai découvert. C'est le jeûne et la méditation. Par exemple, un des buts du jeûne, ça nous fait nous rapprocher des êtres qu'on aime, d'abord de soi-même, d'abord. Ensuite, de la nourriture. Comme par exemple, quand je mange, moi, j'aime pas qu'on discute de problèmes. Je dis toujours à la personne, là, je mange, après ça, on parlera des problèmes. Parce que moi, manger maintenant, c'est devenu une grande fête. Mm-hmm. C'est pas la quantité de nourriture que je mange. Mm-hmm. Je peux manger une soupe, mais je la mange tellement intensément. Ben, c'est comme le gars, hein, ça fait d'une journée, il a pas mangé de toast, il se met à aimer mm-hmm. toast. Au fond, quand on aime plus la soupe, c'est pas parce qu'elle est pas bonne, c'est parce qu'on n'est pas assez privé de la soupe.
Si on discute un problème oui. Pendant qu'on mange, oui. C'est un petit peu comme une contradiction.
C'est une contradiction, ça nuit à la fête. Manger, c'est une liturgie capitale et fondamentale. C'est un lien avec notre corps. Il faut leur joindre notre corps dans ses besoins pour lui donner ce qu'il a de besoin, mais aussi c'est un lieu de communion de l'esprit. Alors, manger avec un être qu'on aime, écoutez, alors la méditation, elle, justement, ça va être de sentir tout le temps l'être aimé. Alors, le jeûne et la prière, le jeûne et la méditation sont liés. Quand on va prendre un repas ensemble, on ne commence pas par manger tout seul à la maison avant. On attend pour manger avec la personne qu'on aime. C'est pour ça que Saint Paul, il dit, arrêtez de prendre un coup à la maison, puis même à l'Eucharistie, là, vous en prenez trop de boissons. Même les pauvres arrivent à ne pas pouvoir manger parce que vous faites rien que vous saouler à la messe, là, à l'Eucharistie. Alors, il disait ça dans 1 Corinthiens, ça n'a pas de bon sens. Buvez à la maison, faites d'autres choses, mais l'Eucharistie, c'est pas fait pour ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a moins de vin à l'Eucharistie, là, mais dans le temps, il y en a il y avait même trois coupes de vin à prendre à jeun avant la célébration de la Pâque. Le Christ a pris au moins trois coupes de vin, puis il pouvait en prendre sept. Mais il y en avait toujours qui en prenaient plus, là. Alors, le vin fait nous parler, le vin fait qu'on peut se réconcilier. Si on n'en prend pas trop, si on en prend trop, on dit toujours la même chose. Si on jeûne trop, c'est pas mieux non plus. Alors, il faut de la sagesse là-dedans. Mais, évidemment, le jeûne est d'autant plus obligatoire qu'on mange trop. Ça, c'est évident, le médecin va le dire.
Monsieur Truchon, vous avez dit dans votre toute petite prière de tout à l'heure, la prière de Del Vasto, « Garde-moi des amours qui ne sont pas l'amour de toi,
oui.
Mais l'amour de toi via ça. Toutes sortes d'autres amours. »
C'est Dieu, ça. C'est Dieu, parce que entre nos deux qui nous regardons, c'est le regard de Dieu qui nous permet de nous regarder. Donc, tout amour conduit à Dieu est divin par nature. Et le jeûne, ça nous permet de rejoindre d'abord Dieu par la prière, parce que c'est de lui que va venir la force et l'amour. Et ensuite, cet amour se retourne vers nous-mêmes et vers le prochain.
Et il passe par tous nos amours personnels.
Il passe par les fleurs, par tous les maringouins, tout passe.
D'accord. Je pense que cette question du jeûne est particulièrement intéressante, d'autant plus que je le mentionnais tout à l'heure durant la pause. Jusqu'à Vatican II, le jeûne était carrément obligatoire dans le rituel catholique. Et depuis, je pense que ça ne l'est plus. Pourquoi est-ce que tout à coup, vous nous reparlez de jeûne, alors qu'il n'est plus dans les règles établies?
Oui, nous avons à vivre un renouveau chrétien, c'est certain. Et les périodes monastiques dans l'histoire de l'Église et de la chrétienté l'ont toujours montré. Et nous avons à nous recentrer sur des actes qui nous font développer la grâce en nous. Alors, prenez le jeûne, là, ça nous fait communier à des gens qui sont dans la misère dans le monde. Alors, si on est inconscient des gens qui sont dans la misère dans le monde, Saint Jacques et Saint Jean vont nous dire que notre foi est illusoire et que notre amour de Dieu est illusoire, qu'il est vain. Alors, c'est pas de s'apesantir avec la misère d'autrui, c'est pas ça le bonheur chrétien. C'est pas de regarder le Christ crucifié puis dire c'est terrible, puis mon Dieu que c'est terrible, puis que c'est terrible, puis d'arriver peut-être à se crucifier soi-même. Là, écoutez, c'est pas ça la croix. La croix, c'est la libération. Mais la libération, il faut être libéré soi-même. Et souvent, quelqu'un qui est dans la misère peut nous aider à découvrir la nôtre. Et c'est certain que le jeûne, c'est une misère avec toi-même que tu es obligé de découvrir et de dépasser et de guérir. Et ainsi, tu communies aussi à la misère des autres. C'est pour ça qu'il y a une autre phrase du même auteur de tout à l'heure que j'aimerais dire et qui est très sérieuse. Qu'il bouge donc bien ses sens en mangeant bien, celui qui ne veut pas, que la charité le dévore. Ça, c'est une capable de phrase.
Elle est très belle, en effet.
Oui. Parce que quand tu as bien mangé, comment penser à ceux qui ont faim, hein? Tu t'endors.
Autrement dit, le jeûne, il a d'autant plus de valeur dans le contexte actuel si on l'a choisi.
Ah, il faut absolument le choisir. Il ne faut pas que ce soit obligatoire. Évidemment, si à l'adolescence, on avait des périodes d'apprentissage de toute cette spiritualité chrétienne, ça serait fantastique. Et que le sacrement de confirmation ou le baptême dans l'esprit, ou je ne sais pas trop, une célébration venait couronner ça, ça serait un catéchuménat extraordinaire. Alors, il y a toutes des situations d'apprentissage là-dedans.
Je vous rappelle encore une fois que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous traitons ce soir de la cinquième béatitude de la miséricorde et de son fonctionnement, le quatrième moyen de fonctionnement, entre guillemets, de la miséricorde. Monsieur Truchon, je crois que vous avez nommé l'aumône.
Oui, c'est ça. Alors là, on s'approche du but, c'est que la prière, quel est l'objectif de la prière? C'est d'être en relation avec Dieu pour recevoir tout de lui. La méditation, c'est creuser cette relation-là pour être toujours plus ouvert pour qu'elle se produise. Le jeûne, ben, c'est d'arriver à retrouver l'orientation exacte de ses instincts, de ses puissances. Mais finalement, tout ça, pourquoi? Ben, pour arriver à l'amour de soi, OK, mais l'amour de soi, c'est pas le but non plus, c'est l'amour de l'autre. Parce que faut se rappeler toujours le schéma fondamental. Nous venons au monde par un autre, pour un autre. Alors, l'aumône, c'est d'apprendre à être gratuit, à aimer comme le Christ a aimé, sans condition, toujours. Alors, l'aumône, là, la société, sans l'aumône, est finie. Parce que chacun cherche son bien propre, c'est l'intérêt, c'est le profit. S'il n'y avait pas de bénévoles dans n'importe quel système, il pourrirait. Parce que tout système, comme par hasard, est fondé sur l'amour de soi, et même pas de l'amour de soi véritable, mais du profit seulement. Alors, parce que quand on s'aime vraiment, on découvre l'autre qu'il faut aimer, et qu'on a aimé, et qu'on est capable d'aimer. Alors, l'aumône, c'est l'aspect gratuit de notre vie, d'abord du côté de Dieu, qui nous aime comme ça, et de notre côté à nous, face à lui, face à soi, et surtout face à l'autre. Donc, l'aumône, c'est d'être capable de penser vraiment à l'autre, de l'aimer vraiment, de telle sorte que l'autre, il dise, c'est pas toi que t'aimes en moi, c'est moi que t'aimes. Alors là, on est rendu, là, à ce moment-là, à développer la puissance de ce qu'on appelle l'amour oblatif. Et tout ça va se faire dans des expériences.
Mais avant de parler des expériences, M. Oui. Touchon, l'aumône, c'est un moyen très, très concret, là. On n'est plus dans la méditation ou la prière. Non. Et savoir où tirer la ligne, ce n'est pas toujours simple, parce que je crois bien que charité bien ordonnée commence par soi-même.
Oui. Alors, la ligne, là, en fait, là, c'est un triangle dont les trois côtés se touchent. L'amour de soi, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre. C'est le même amour qui circule dans les trois sujets, ouvert dans les trois directions. Et il n'y a pas de ligne à tracer parce que tout s'intègre et tout s'entre l'un dans l'autre et l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Et si moi, par exemple, je dis je t'aime, mais que c'est à cause de Dieu que je t'aime, tu vas dire, c'est pas moi qui t'aime, c'est Dieu.
Mais comme dans toute chose, je suis sûre que c'est possible de verser dans l'excès à l'occasion.
Ben, l'excès vient toujours d'une frustration. Les frustrations sont utiles, elles engendrent des désirs, mais après ça, on a la tâche d'orienter ces désirs-là et de les faire se transformer.
Alors, passons donc aux expériences, je dis bien, de miséricorde,
oui.
Qui sont la suite des petits modes de fonctionnement, la prière, la méditation, le jeûne et l'aumône.
Oui.
Donc, dans les expériences de miséricorde, qu'est-ce que vous avez à nous raconter?
Bon, d'abord, commençons par le commencement, le Christ lui-même crucifié. Par exemple, je cite ici de Prions en Église, 26 novembre 95, le roi crucifié. Depuis trois quarts d'heure, une femme multipliait les arguments afin de me convaincre d'abandonner la foi catholique pour rejoindre les rangs de sa secte. Avec beaucoup de conviction, soudain la femme se dresse, elle pointe du doigt le crucifié et me dit « Comment osez-vous adorer un homme que vous laissez suspendre à une croix? Vous dites qu'il est ressuscité et vous restez rivé sur sa souffrance et sa mort. Oui, madame, je reste rivé sur la souffrance et la mort de cet homme, parce que dans cet être faible et fragile, je reconnais la lumière de Dieu. Dieu vient toujours sous des allures de pauvre. Il n'a rien à vendre, il n'a rien à offrir pour se faire valoir. Il aime gratuitement. Il veut être aimé pour rien. Oui, madame, je reste rivé sur la souffrance et la mort de cet homme, parce que dans sa pauvreté, c'est ma propre fragilité que je reconnais. Je sais trop bien que je ne peux rien faire valoir devant Dieu. J'ai à me présenter à lui, dépouillé de tout. Il m'aime pour moi-même et non pour ce que je vaux. J'ai appris cela du Christ. Quand il est mort en croix, le Seigneur a ouvert la porte sur un royaume où la miséricorde est la seule richesse qu'on partage. On n'y est grand que petit, à la manière du Christ, à la manière de Dieu. Denis Gagnon, fin de la citation. Bon, alors, quand on est devant le Christ crucifié sur la croix, il faut voir le Christ glorieux, parce que le Christ, maintenant, il est glorieux. Maintenant, il faut le voir sur la croix, parce qu'il est encore sur la croix dans nous et dans certains de nos frères, et dans tous nos frères d'une certaine manière, parce que nous sommes encore en pèlerinage de guérison et de transition. Alors, nous sommes dans une vie terrestre. Mais il faut voir la puissance du Christ. Ses blessures sont devenues glorieuses, c'est-à-dire qu'elles ont la puissance de nous guérir. Si je méditais devant mon coiffeur, ce serait déjà pas pire, mais ça n'a pas la puissance du Christ, parce que mon coiffeur est un gars qui a des problèmes. Mais le Christ n'a aucun problème. Le seul problème que le Christ a, c'est les miens. Alors, au fond, si j'arrive à voir les miens dans les siens, je suis débarrassé. Puis au fond, lui aussi, parce que c'était ce qu'il voulait atteindre. Maintenant, je prendrai un exemple d'un thérapeute assez célèbre qui s'appelle Genlin, G-E-N-D-L-I-N. Ce gars-là a bâti toute une méthode de thérapie de la façon suivante. Je vais la résumer en 5 points. Et je vais vous dire que moi, j'ai pratiqué cette méthode avec le Christ assis à côté de moi. Il va s'en dire dans la foi. Et ces 5 méthodes, ces 5 étapes sont les suivantes. Premièrement, c'est un exemple qu'il prend. Si je rentre dans mon sous-sol et s'il n'y a plus de place à circuler, ben, je dis même au voisin que je n'ai pas de sous-sol, je ne suis pas intéressé à y aller, je ne veux plus y aller. Ça, c'est le gars qui ne veut pas avoir ses problèmes. Bon, c'est l'étape zéro de la thérapie, si vous voulez. Ensuite, il descend dans son sous-sol, puis là, il déplace 4 pieds carrés, juste la place pour s'asseoir. Puis là, en s'assoyant, il regarde le sous-sol. Là, il est découragé. Donc, première étape, visualiser notre problème, le sentir un peu. Deuxième étape, fermer les yeux, puis t'imaginer que ton sous-sol est tout à fait en ordre. Ça serait extraordinaire. Hein? Bon, en effet. Deuxième étape. Troisième étape, c'est que tu te dis, bon, qu'est-ce que je ressens quand je revois mon sous-sol en désordre? Bon, j'essaye de nommer ce sentiment-là. Quatrième étape, est-ce que j'ai bien nommé ce sentiment-là? Si oui, mon corps bouge, je viens de faire un pas dans ma thérapie. Cinquième étape, accueillir la libération qui vient de m'opérer. Ben, il faut faire ça avec le Christ, avec l'Écriture sainte. Au fond, la méthode de Saint-Benoît ressemblait à celle-là. Nous en reparlerons peut-être dans quelques minutes.
Oui, ben, ce serait plutôt la semaine prochaine parce que le temps nous manque déjà. Okay. Alors, nous reprendrons ces 5 étapes dont vous venez de parler.